bonne histoire.
Bonjour, bonjour, c'est Doé qui vous raconte toujours et encore des histoires et nous continuons notre série autour des contes de Bretagne, de Basse-Bretagne, que nous a rapporté Émile Souvestre au 19e siècle. On y parle beaucoup de morts, beaucoup de religions, enfin voilà quoi, du monde paysan. Et aujourd'hui, l'invention des balins. Les balins, ce sont des couvertures de lin. C'est cette histoire que je vais vous lire, extraite donc du foyer breton d'Émile Souvestre. Dans l'histoire que je vais vous raconter, cher Jean, il n'est question ni de fées, des eaux, ni de tours jouées par l'ange qui porte une queue, ni des lessives que les mortes font au clair de lune. Il s'agira d'une chose plus rare, d'une femme belle comme le jour, douce comme le lait, gaie comme l'alouette et avec cela fidèle à son chef de ménage. Je vous en souhaite autant pour vos étrennes. Cette femme était du Léonais et de grande naissance. Elle avait épousé Olivier de Kergent et habitait le château du même nom que vous connaissez près d'ici. Mais le toit se trouvait alors au-dessus du grenier au lieu d'être dans les caves. Les cheminées n'étaient pas fendues comme un Justin où l'on voyait les violets dans le jardin plutôt que sur les pignons. La dame de Kergent qui se nommait Francesa n'était pas seulement, comme je vous l'ai dit, la reine des belles, c'était aussi la mère des pauvres gens. Et elle n'attendait pas pour le servir que l'affliction leur fût venue, car elle aimait leur joie comme nous aimons le soleil. Elle allait de maison en maison chez les mercenaires pour donner des conseils et de l'argent. L'argent faisait suivre les conseils et les conseils faisaient profiter l'argent. Ceux qui à l'ouvrage manquaient se rendaient au château qui était comme l'église, ouvert pour tout le monde. Si c'était des jeunes garçons, on les envoyait aux champs. Si c'était des jeunes filles, elles allaient aux étables ou aux buanderies. Si c'était des mères ou des vieillards, on leur donnait à filer le lin et les toupes de Kergent. Le fil de lin était ensuite remis aux plus habiles tisserands qui en faisaient des toiles de toute finesse et de toute grandeur. Mais quant au fil des toupes, il ne servait à rien, sinon à prouver la charité de Dame Francesa. Aussi, les greniers et les caves du château en étaient-ils remplis. Par bonheur, monsieur Olivier de Kergent, mari de la dame, approuvait tout. Les yeux et le cœur de Francesa étaient devenus ses yeux et son cœur. À tout ce qu'elle avait fait et sans avoir vu, il disait « C'est bien !» comme un homme sûr que sa moitié de ménage ne peut faillir. Celle-ci lui tenait compte de sa confiance et avait coutume de répéter gaiement, selon son caractère, qu'elle ne trahirait point M. Olivier avant que le coq de plomb du clocher de Bervin n'eût pris sa volée. Cependant, le seigneur de Kergent fut obligé de partir pour aller faire visite au roi de France, qui était un Louis, 14e de nom. Il voulut emmener avec lui Francesa, mais celle-ci lui dit « Si vous le permettez, cher cœur, j'aime mieux que vous partiez seul, car moi, absente, que deviendraient mes pauvres fileuses et mes orphelins? Depuis si longtemps que je les garde sous ma protection, ils y sont accoutumés, et l'on doit aux malheureux ce qu'on leur a fait espérer. Allez donc à Paris sans moi, au lyrique, et surtout, revenez bientôt. » Monsieur de Kergent, qui ne savait pas vouloir contre la volonté de la dame, céda à ses prières. Il se mit seul en route après avoir bien recommandé à sa chère Saïgou de lui écrire et de mettre ses lettres dans le paquet de Monseigneur l'évêque de Saint-Paul, afin qu'elles lui parvinssent plus sûrement. Il n'arriva à Paris que le 16e jour après son départ, vu que l'on voyageait alors au petit pas des chevaux, comme les fermiers qui portent la redevance de blé à leur maître. Encore s'arrêtait-on la nuit, de peur des ornières. Monsieur Olivier rencontra à la cour un grand nombre de gentilshommes bretons et de léonards, car notre évêché a toujours été renommé pour sa noblesse. Et c'est là qu'on trouve les Kervmavans, dont la race a été reconnue si ancienne que Monsieur le Bon Dieu seul est de plus vieille maison. Le mari fut reçu par eux et par les gentilshommes français avec de grandes politesses. Seulement, tous s'étonnèrent de ce qu'il n'eût point amené sa dame. C'est sans doute quelques sauvages laidrons dont il a honte, dirent ceux-ci. Mais les autres répliquèrent qu'elle était au contraire si belle qu'au vieux dicton du pays, antiquité de Penouette, vaillance de Duchâtel, richesse de Carmant, chevalerie de Kergounadec, on avait ajouté à cause d'elle beauté de Kergent. Alors, dirent les Français, Monsieur Olivier l'aura laissé au fond de son château de peur qu'elle ne trouvât ici quelque gentilhomme trop à son gré. Le seigneur de Kergent, averti de ces bruits, s'en montra offensé et déclara publiquement qu'il avait trop entière confiance en l'honneur de Dame Francesa pour songer à de semblables précautions. Les gentilshommes français se mirent à rire. Dieu ne se fiait point ne se fiait pas moins à notre mère Ève quand il l'a mis dans son paradis terrestre, répliquèrent-ils. Dame Francesa n'aime que moi, répliqua Olivier. Dame Ève n'aimait aussi que les fruits permis avant d'avoir vu la pomme du bien et du mal, répliquèrent les Français. Le seigneur de Kergent voulut se fâcher et dégainer l'épée, mais le moins étourdi lui dire « Pardieu, vous ne prétendez pas être plus sage que notre créateur, monsieur Olivier, puisqu'il a voulu éprouver la femme, faites comme lui. Voici d'Aiguillon, un de nous qui peut jouer mieux qu'aucun autre le rôle du serpent. Laissez-le partir pour votre château. Si Dame Francesa lui résiste, nous reconnaîtrons qu'elle est au-dessus de la tentation. » Le seigneur de Kergent eût mieux aimé se battre, car il y a deux choses qu'il n'est jamais prudent d'essayer, les vertus des femmes et les ponts nouvellement bâtis. Mais en refusant, il lui fait croire qu'il se défiait de l'épreuve. Il fut donc forcé d'accepter d'adresser lui-même le comte d'Aiguillon à sa Francesa Guyogou, avec une lettre qu'il recommandait de le recevoir comme son plus bel ami. Le gentilhomme français partit après avoir promis à Olivier de ne pas le faire attendre plus que la fin du mois, et le breton, n'osant pas l'étrangler, lui souhaita un heureux voyage. Pour ceux qui regardaient la route, le souhait fut accompli car le comte arriva au château sans retard et sans accident. Dame Francesa le reçut de son mieux, lui fit les honneurs de Kergent comme à un frère, afin d'obéir à la lettre de son chef de ménage. Elle tâchait par tous les moyens de distraire le français, elle allait à cheval avec lui visiter les manoirs voisins et revenait à la brune, à travers les bois, ou bien ils passaient ensemble les soirées, causant, chantant et racontant des histoires d'amour. La dame de Kergent faisait tout cela sans malice, mais d'Aiguillon profitait de sa confiance pour le succès de sa trahison. Il commença par dire à Francesa qu'il la trouvait plus belle que toutes les beautés de la cour, et cela fit rire la dame. Il ajouta qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer, et elle rit toujours. Il avoue enfin qu'il était sûr de mourir si elle ne le prenait en pitié, et elle rit plus fort que jamais. D'Aiguillon pensa qu'il n'aurait point trop de peine puisqu'on recevait sa déclaration si gaiement, et il devint de jour en jour plus pressant. D'abord il demanda le ruban qui servait à la coiffure de la dame de Kergent et elle le lui donna. Ensuite il voulut avoir une épingle d'or qui fermait sa collerette et elle la laissa prendre. Enfin il essaya de retirer un anneau qu'elle portait au petit doigt et elle ne fut pas assez forte pour l'en empêcher. Alors d'Aiguillon, persuadé qu'il pouvait tout entreprendre, lui demanda un rendez-vous pour le soir. Dame Francesa refusa une première fois, puis une seconde, mais à la troisième demande elle lui dit: je ne puis vous recevoir ni dans la salle où l'on mange, car les valets y viennent, ni dans la salle de cérémonie, car on peut y voir de dessus la terrasse, ni dans la chambre où je couche, car la servante le saurait, ni dans le jardin, car les nuits sont froides. Mais si vous voulez que je vous enferme dans le petit bûcher, là où il y a un métier de tisserand, près d'un grand amas d'étoupes filées, j'irai vous y rejoindre dès que les lumières seront éteintes. D'Aiguillon accepta bien vite et triomphant dans son cœur, il ne voulut même pas attendre jusqu'au soir pour avertir ceux de Paris. Il fit un paquet du ruban, de l'épingle d'or, de la bague et après y avoir joint une lettre qui annonçait son prochain retour, il donna le tout à un messager en remplissant ses deux mains de louis pour qu'il arrivât plus vite. Ses précautions prises, le galant se parfuma de graisse de tubéreuse et d'odeuillet. Il mit ses bas de soie, ses habits de velours, ses souliers à rubans, son épée à pommes d'or, et il se fit enfermer dans le bûcher. Là, il attendit que tout fit silence dans le château, sauf la girouette qui tournait au vent et le chat qui miaulait sur les toits. Alors il se redressa, il arrangea son jabot de dentelle, il mit une main dans la petite poche de sa veste afin de se donner l'air aimable, et il pencha la tête pour écouter comme un chien qui attend son maître. Enfin, il entendit un bruit de pas au bout du corridor. On s'approcha de la porte. Avec une lanterne, on ouvrit le petit guichet. Une figure se pencha et il jeta un cri de joie en reconnaissant la belle Francesa. Hélas, pendant que l'on ruinait ainsi son honneur, monsieur de Kergent était toujours à la cour du roi de France, où il passait les journées à se promener en carrosse et les soirées à jouer au brelan. Il eut bien voulu repartir pour son château, mais le mois d'épreuve n'était point encore achevé et il avait donné sa parole d'homme noble d'attendre jusque-là. Enfin, il n'y avait plus que 5 ou 6 jours quand le messager du comte arriva à la cour avec la lettre de son maître, le ruban, l'épingle d'or et la bague. En les voyant, monsieur Olivier resta d'abord à la même place, la figure pâle et les deux mains tremblantes comme un agonisant. Mais la colère guérit tout à coup sa douleur et il cria à un domestique de lui amener son cheval Tête-Rouge, qui était le meilleur coureur de Bretagne et de France. parti seul sur le champ, sans rien dire à personne, allant nuit et jour, comme va la mort. Son cheval dormait debout, et lui dormait sur son cheval, et quand il s'arrêtait pour lui donner l'avoine, il le regardait manger grain à grain. Puis le picotin s'achevait, il le rebridait lui-même et reprenait sa route. Il continua ainsi pendant 6 jours. Enfin, le 7e au soir, il arriva à Saint-Paul. Le vent de mer soufflait avec rage, la pluie tombait comme un étang qui se décharge, et le tonnerre formait des broderies de feu dans le ciel. Monsieur de Kergent ne s'arrêta pas pour cela, il passa droit devant la flèche de Cresquer et suivit sa route, mais en arrivant à Béret, à Bervin, il trouva sur le chemin les débris du clocher que l'orage avait abattu. Ah, pensa-t-il, ceci est un intersigne. Madame Francesa a dû me trahir car le coq de plomb de Bervin a pris sa volée. À cette pensée, il appuya l'éperon avec rage contre le ventre de Penru, et comme le jour finissait, il aperçut enfin les hautes cheminées de Kergent derrière les avenues de chênes. Alors il mit pied à terre, le cœur serré, jeta la bride sur le cou de Penru qui bottait de 3 jambes et le regardant avec tristesse. « Hélas, dit-il, que Dieu me pardonne car j'ai tué un beau cheval qui m'était fidèle pour une belle femme qui ne l'est pas. » Puis prenant à pied par le petit bois afin de couper au plus court, il arriva devant la grande porte et frappa avec violence. Francesa, qui était dans sa chambre, reconnut les coups et s'écria en tressaillant « Sur mon âme, c'est monsieur de Kergent qui a frappé !» Et comme elle accourait pour s'en assurer, elle rencontra sous le porche du pont-levis le gentilhomme qui la demandait à haute voix, et elle s'élança vers lui les bras ouverts. Mais monsieur de Kergent rabattit ses 2 mains qu'il serra dans une des siennes, il l'entraîna dans la chapelle qui était le lieu le plus voisin, et s'appuyant sur la porte refermée, « Où est le comte d'Aiguillon, mauvaise femme ? » s'écria-t-il, les yeux grands ouverts de fureur. Francesa se mit à pâlir et à trembler. « Pour Dieu, n'ayez pas de chagrin contre moi. Olière, dit-elle, j'ai tout fait pour éviter ce qui est arrivé. Et vous ne l'avez pu ?» demanda le seigneur de Kergent qui avait peine à parler. « C'est la faute de votre ami, à peine arrivé, il s'est dit amoureux de moi, et d'heure en heure, il est devenu plus exigeant. Et vous, d'heure en heure, vous avez cédé ?» demanda Olivier. « Peu de choses d'abord, répliqua dame Francesa. Un ruban, une épingle d'or et une bague !» s'écria son mari. « Oui, je crois qu'il a pris la bague aussi, reprit-elle, mais ça ne lui a pas suffi. Il a fallu consentir à l'enfermer dans le petit bûcher avec promesse d'aller le rejoindre le soir. Et vous avez tenu cette promesse, madame ? Il le fallait bien, Olivier. Je suis allé ouvrir le guichet et j'ai dit au comte que lui avez-vous dit qu'il restera là jusqu'à votre retour. » Le seigneur de Kergent fit un soubresaut. « Qu'est-ce que vous me comptez là, Francesa ? Vous avez enfermé monsieur d'Aiguillon, avec promesse de le faire sortir quand il aurait tissé tout le fil d'étoupe du petit bûcher. Aussi, écoutez comme il travaille. » Monsieur de Kergent prêta l'oreille et entendit effectivement au-dessous le bruit du métier. Alors Francesa lui raconta que le gentilhomme de France était d'abord révolté et avait refusé d'apprendre à tisser la toile, mais qu'elle l'avait soumis par la fin, de sorte qu'après plusieurs essais, il était arrivé à fabriquer avec le fil d'étoupe une toile forte et chaude telle qu'on n'en avait jamais tissé avant lui. Monsieur de Kergent ne pouvait croire que ce que lui disait dame Francesa, et il fallut le conduire au guichet du petit bûcher, d'où il aperçut le comte d'Aiguillon à son métier de tisserand, le chapeau à plumes sur la tête et l'épée au côté. À cette vue, toute la colère du seigneur breton s'en alla en gaieté, et il ne put retenir l'éclat de ses risées. Monsieur d'Aiguillon se leva tout étonné et le fut encore bien davantage quand il reconnut le mari. Cependant, comme il avait l'esprit avisé de ceux de la cour, il eut l'air de bien prendre la chose et répondant au rire du breton par un sourire couleur de farine, il lui cria « J'ai perdu mon pari, monsieur de Kergent. » « Alors il faut que vous alliez le dire aux autres gentilshommes de France, répliqua Olivier, car votre lettre et les 3 gages envoyés leur ont fait penser le contraire. » D'Aiguillon promit de retracer la lettre et de rendre les gages, mais madame Francesa lui dit en souriant qu'il pouvait garder ceci en récompense du nouveau tissage inventé par lui, et dont profiteraient les pauvres gens du pays. De fait, c'est depuis ce temps que la fabrication des balins s'est étendue et perfectionnée dans le Léonais, et l'on y répète encore un proverbe rappelé que ce fut au château de Kergent que travailla le premier balinier. L'invention des balais, une des histoires qu'on retrouve dans le foyer breton des mille souvestres. D'ailleurs, le château de Kergent, dont on parle abondamment de cette histoire, est un très bel endroit qui existe encore aujourd'hui et que vous pouvez aller visiter ou simplement aller vous y promener. C'est très beau. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour encore des histoires. Ciao, bye bye, c'était Doé.